Bonjour Guillaume, bonjour à tous. 25 mesures pour promouvoir le vélo. Le gouvernement met de l'argent sur la table pour les collectivités et les entreprises. On parle notamment d'un forfait mobilité durable pour les salariés cyclistes. Mais est-ce assez ? Nous poserons la question à notre spécialiste environnement dans un instant.
Et puis vous entendrez ensuite la fille de Maurice Audin, le militant mort sous la torture lors de la guerre d'Algérie. L'État français le reconnaît enfin. 3000 personnes au moins ont disparu à ce moment-là, veut rappeler la fille du militant.
La colère aussi dans cette édition de Benoît Hamon après l'annonce de la création d'un revenu universel d'activité. Rien à voir avec son revenu universel proposé l'an passé. Cette fois, le gouvernement demande des gages aux personnes sans emploi.
Et puis, le Premier ministre arménien est à Paris aujourd'hui, 4 mois après la révolution de velours dans son pays. Il semble réussir à lutter pacifiquement contre la corruption.
La Corée du Sud bannit le café dans les écoles du pays. Les élèves, pour travailler jusque tard dans la nuit, en buvaient beaucoup trop. Signe inquiétant de la pression scolaire sud-coréenne. Transformer un loisir en un mode de déplacement quotidien. Le vélo réussira-t-il, avec un coup de pouce financier du gouvernement, à prendre une place plus importante dans la vie des Français ? Le Premier ministre Édouard Philippe doit en tout cas dévoiler aujourd'hui les 25 mesures du plan vélo, attendu depuis 9 mois par les associations, voulu par l'ancien ministre Nicolas Hulot. Édouard Philippe sera à Angers cet après-midi pour en parler. Il annoncera une enveloppe de 350 millions d'euros pour développer les infrastructures pour les déplacements à vélo. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
350 millions d'euros répartis, et c'est notable, sur 7 ans. Ce n'est pas une révolution. On est encore loin, Véronique, des demandes des associations.
Oui, elles espéraient 200 millions d'euros par an, les associations d'usagers du vélo, pour mettre enfin les Français sur des bicyclettes. La bicyclette chez nous représente 3% des modes de déplacement. Aux Pays-Bas, c'est 26%, en Allemagne 10%. Le gouvernement espère passer, lui, de 3 à 9% d'ici 2024. L'objectif est, on va dire, plutôt modeste. Le fonds vélo, vous l'avez dit, 350 millions d'euros sur 7 ans, est en grande partie destiné à cofinancer avec les collectivités locales des infrastructures encourageant la pratique du vélo. Olivier Schneider est le président de la Fédération nationale des usagers de la bicyclette.
Ce sont les collectivités qui font les aménagements cyclables, c'est la SNCF qui va organiser le stationnement dans les trains, c'est les promoteurs immobiliers qui font les stationnements dans les immeubles. Néanmoins, compte tenu des retombées positives sur la santé et compte tenu du retard de la France, il faut que l'État accompagne cette démarche plutôt que de juste dire « faites ce que je dis parce que je fais pédaler Françaises et Français ». Les retombées sont avant tout celles de santé, mais également celles de l'amélioration du climat avec la baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Voilà pour les efforts à faire pour financer plus d'infrastructures. Le gouvernement, Véronique, veut aussi créer un forfait mobilité.
Oui, une indemnité vélo qui sera prise en charge par l'entreprise. Un forfait annuel, une indemnisation qui s'élèvera, croit-on savoir, au moins à 200 euros à partir de 2020. Mais cela que dans la fonction publique. Tout employé de l'État y aura droit. Pour les salariés du privé, bien, ce sera au bon vouloir de l'entreprise. Abandonner en tout cas définitivement l'idée d'une indemnité kilométrique jugée trop compliquée par Matignon. Et puis un mot encore, le plan vélo, vous avez dit, prévoit 25 mesures. Il y en a une qui est destinée à mettre tous les enfants, les jeunes enfants, sur un vélo pour qu'ils sachent faire de la bicyclette dès leur entrée en 6e et leur donner, pourquoi pas, le virus du vélo tout petit.
Le vélo et la natation, merci beaucoup. Merci beaucoup Véronique Rebérotte pour ces premières précisions ce matin. Des militaires français ont bien torturé le communiste Maurice Audin en Algérie il y a 61 ans. Emmanuel Macron l'a officiellement reconnu, répondant à une demande de longue date des communistes notamment. Le militant a été, a dit le chef de l'État, victime d'un système légalement institué en Algérie par la France. Emmanuel Macron a ainsi remis à la veuve de Maurice Audin hier une déclaration reconnaissant la responsabilité de l'État. Il lui a demandé pardon. Un moment historique pour la fille de Maurice Audin, Michèle Audin. Elle pense aussi aux autres familles des victimes, reconnues elles aussi par ce geste d'Emmanuel Macron hier.
Ce qui est important, c'est qu'il a affirmé les responsabilités de la République dans la mort et dans les exactions qui ont été faites pendant la guerre d'Algérie par la République française et l'armée française. Bon, il y a eu quand même 3000 disparus pendant la bataille d'Alger, pas seulement mon père. Mon père, on en parle parce que ma mère avait remué ciel et terre, et parce qu'elle était d'origine française, et parce que elle savait écrire, et etc., etc. Mais il y a eu quand même 3000 disparus pendant la bataille d'Alger, d'une part, et d'autre part, il y a eu des tas d'autres disparus, y compris des disparus français à la fin de la guerre d'Algérie. Donc, c'est ouvrir une porte à des relations normalisées avec l'Algérie et puis avec les descendants des Algériens qui vivent en France et tout ça. Je trouve que c'est vraiment très, très bien. Et c'est pas trop tôt, vraiment. Ça fait quand même 61 ans, hein.
Michel Audin au téléphone de Sophie Delpont. Face à cette reconnaissance, il y a eu de très nombreuses réactions positives à gauche, notamment chez les communistes, mais aussi les socialistes. La France est grande quand elle affronte sereinement tout son passé, salue ainsi le député PS Boris Vallot. En revanche, le Rassemblement National estime qu'Emmanuel Macron commet un acte de division en pensant flatter les communistes. Voilà ce que dit Marine Le Pen, dont le père Jean-Marie Le Pen avait déclaré en février dernier qu'il aurait sans doute pratiqué la torture en Algérie si on le lui avait demandé. Ce n'est pas un plan charité, mais un plan pour sortir du scandale de la pauvreté. Voici les mots d'Emmanuel Macron qui, avant de se rendre hier chez la veuve de Maurice Audin, a détaillé son plan pauvreté. Journée d'hier tournée donc vers l'électorat de gauche. Il a annoncé, et c'est notable, la création d'un revenu universel d'activité qui fusionnerait les APL, la prime d'activité et le RSA. En échange d'une recherche active d'un emploi, cela serait scellé par un contrat d'accompagnement avec l'État. Ce revenu universel d'activité, donc, rappelle évidemment l'un des thèmes de campagne de Benoît Hamon l'année dernière. Le candidat socialiste défendait alors un revenu universel d'existence, sans la moindre contrepartie. Et c'est là une différence de taille, veut souligner le leader du mouvement Génération, Benoît Hamon.
Le président de la République considère qu'on a le droit à la dignité en contrepartie des efforts que l'on fait. Et en contrepartie des efforts que l'on fait pour retrouver un emploi. Or, nous sommes un pays qui crée de moins en moins d'emplois, en tout cas qui n'en crée pas assez, qui a près de 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Alors, comment faire quand on est chômeur, quand on est pauvre, pour pouvoir retourner vers l'activité et l'emploi, quand notre économie ne crée ni activité ni emploi? Eh bien, c'est impossible. Et le fait demain de conditionner l'accès aux minima sociaux au fait de retrouver une activité, c'est un vrai recul dans l'idée qu'on se faisait jusqu'ici d'un principe selon lequel toute personne qui habite dans notre pays et un citoyen français a le droit à un minimum pour vivre. C'est ce principe qui est remis en cause aujourd'hui et je le regrette profondément, surtout quand on habite ça d'un prétendu revenu universel.
Alors comment parler de la pauvreté quand les responsables politiques multiplient les périphrases pour ne pas prononcer le mot pauvre? Ce sera le thème du billet politique de Frédéric Seyss juste après ce journal. La pauvreté encore, mais aux États-Unis, et là c'est un milliardaire qui propose un plan. Jeff Bezos, patron d'Amazon, annonce sur ses deniers personnels la création d'un fonds pour l'éducation et le logement des plus défavorisés. C'est un budget à 2 milliards de dollars, soit tout de même 1% de la fortune de Jeff Bezos. Ils sont 10 candidats à se disputer la présidence du groupe La République En Marche à l'Assemblée pour remplacer Richard Ferrand, monté au perchoir. Des personnalités variées, mais loin d'être aussi fortes que leurs prédécesseurs, Adrien Taufollet.
Ils sont jeunes ou bien issus de la société civile, des novices en politique ou des élus moins jeunes mais à l'aura médiatique nulle. Bref, piochez dans la liste des candidats à la tête du groupe La République En Marche, vous verrez qu'ils n'ont pas grand-chose en commun avec Richard Ferrand. D'ailleurs, les députés qui vont devoir les départager le savent bien. Pas la peine de chercher dans la majorité quelqu'un avec son parcours, son expérience politique, son caractère ou sa proximité avec Emmanuel Macron. Il n'y en a pas. Ferrand, c'était l'homme de la situation pour le début du quinquennat. Un lieutenant du chef de l'État avec de la poigne pour cadrer l'arrivée des primo-députés, pour créer une dynamique collective et mettre en place le projet présidentiel, quitte à passer pour un général autoritaire. Mais aujourd'hui, le jeune parti a surtout l'occasion de montrer un autre visage. Certains députés laissent entendre qu'il faut à la tête du groupe quelqu'un qui représenterait un peu plus le fameux nouveau monde. Il faut impérativement aujourd'hui répondre aux attentes des marcheurs qu'on cède l'un d'entre eux. Cette base du mouvement refroidie par l'élection de Richard Ferrand au perchoir et qui a bien en tête qu'égalité et renouvellement étaient une promesse du candidat Macron, primo-député, issu de la société civile et surtout femme, des critères qui devraient peser plus lourd pour une fois chez LREM.
Les députés de la majorité choisiront leur chef de file mardi prochain. 2, 7 et 12 ans d'emprisonnement, voici les peines requises dans le procès Méric à l'encontre des trois accusés. Accusés d'être responsables de la mort de Clément Méric à Paris il y a 5 ans, la cour doit rendre son verdict ce matin. Au chapitre judiciaire encore, une voiture a foncé dans la foule à Nîmes cette nuit, faisant 2 blessés légers. Le conducteur a été interpellé. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Ce matin, le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Gérard Collomb demande des procédures européennes d'expulsion plus efficaces et plus harmonisées pour les migrants économiques irréguliers. Le ministre français de l'Intérieur l'a plaidé hier devant ses homologues européens rassemblés à Vienne. Et face à ce discours qui distingue migrants politiques et économiques, une petite ville du Puy-de-Dôme accueille depuis 3 ans des demandeurs d'asile de tous horizons et plus généralement tous les sans-papiers en difficulté. À Billon, 4900 habitants, un collectif s'appelle Khazar. Il a soutenu une poignée de familles ces 3 dernières années, venues de Syrie, mais aussi du Kosovo, du Daghestan ou même de Roumanie. Je vous propose d'écouter Flore, l'une des militantes de ce collectif Khazar.
Je pense que certaines associations, ils voient défiler tellement de monde, c'est difficile. Hein. Ils le disent qu'ils doivent se blinder, notamment pour l'accueil des réfugiés, qui sont parfois déboutés du droit d'asile, où il faut se blinder, parce que émotionnellement, c'est extrêmement dur. Voilà. Et là, à Casa, peut-être que c'est un tort, mais on est beaucoup à pas se blinder. Mais c'est aussi ce qui nous enrichit. C'est-à-dire qu'on a des moments de partage qui sont absolument merveilleux. C'est pas des choses toutes bêtes, mais le cross du collège où Raluca, elle finit première du cross, elle monte sur le podium avec la coupe, elle venait d'arriver et tout le monde était tellement fier. Et là, pour ces occasions-là, je pense notamment à Annie et Nadine, qui, donc de Casa, qui sont venues à la remise des coupes. Les filles, elles ont fait de la danse, spectacle de danse. Et ben, elles étaient au spectacle de danse. Et voilà, et ce qui est bien dans Casa, c'est qu'il y a cet esprit un peu famille.
Voici un extrait du grand reportage qui sera diffusé ce soir à partir de 17h sur France Culture. Réfugiés en Auvergne, la solidarité au quotidien. Un grand reportage signé Tara Schlegel, réalisé avec Annie Brault. Il sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer.
Eh bien, il est 8h12 sur France Culture et c'est la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian est à Paris aujourd'hui.
Oui, pour un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron à 1 mois du sommet de la francophonie à Erevan. Nikol Pachinian est un ancien opposant en Arménie, élu en mai dernier après la révolution de velours. Et nous nous penchons ce matin sur sa politique, car il a réussi, semble-t-il, à tenir sa grande promesse, lutter contre la corruption, Élise Delève.
Il a été élu pour ça, bâti sa popularité sur une croisade, mettre un terme à la corruption qui ronge le pays. Et depuis le 8 mai, Nikol Pachinian a engagé une lutte frontale pour concrétiser sa promesse. Ouverture d'enquête anticorruption, opération de police, mise au jour de réseaux d'écoute, dans le viseur des oligarques et anciennes élites pro-russes. L'Arménie avait peur du pouvoir. Nikol Pachinian a ramené la sérénité. Et l'ancien opposant de 42 ans a réussi cette transition sans aucune goutte de sang, aucune victime lors de la révolution de velours du printemps dernier. En début de semaine, lors de la venue de Michel Jean, secrétaire général de la francophonie, il a rendu hommage à son peuple en français.
Les derniers événements en Arménie, la force du mouvement civique, son caractère démocratique et populaire, ont mis en lumière toute l'importance de la société civile. Ils ont, d'autre part, illustré d'une manière évidente l'ancrage des valeurs de paix, de démocratie et de tolérance dans notre pays.
L'un des enjeux de la rencontre avec Emmanuel Macron, c'est montrer que l'Arménie, seul pays stable et sûr de la région, peut avoir une diplomatie équilibrée. Approfondir sa relation avec l'Europe sans vexer la Russie, qui lui fournit la quasi-totalité de son gaz, énergie et infrastructure. Erevan a aussi intérêt à ne pas trop se détacher de Moscou pour ne pas répéter les crises géorgiennes et ukrainiennes. En se tournant vers Bruxelles, Tbilissi et Kiev avaient déclenché une guerre avec la Russie.
Les deux Corées ont ouvert ce matin un bureau de liaison conjoint au nord de la péninsule, signe d'un nouveau rapprochement en amont de la visite la semaine prochaine à Pyongyang du président sud-coréen Moon Jae-in. La Corée du Sud, et c'est un tout autre sujet, qui a supprimé depuis ce matin le café dans les écoles, pour les professeurs et surtout pour les élèves. Dans ce pays où la pression scolaire est démesurée, le gouvernement veut empêcher les plus jeunes d'abuser du café pour passer leur nuit à travailler. Les précisions de notre correspondant Frédéric Ojardias.
Depuis ce matin, café et boissons contenant de la caféine sont bannis des cantines et des distributeurs automatiques de toutes les écoles de Corée du Sud. En réalité, leur vente était déjà interdite depuis 2013, mais seulement pour les élèves, et ceux-ci pouvaient facilement se servir dans les distributeurs réservés à leurs professeurs. Beaucoup ont recours au café pour rester réveillés et étudier tard le soir. Le système scolaire sud-coréen est considéré comme le plus compétitif au monde, et les concours d'entrée à l'université, basée sur l'apprentissage par cœur, exige d'interminables nuits passées sur ses livres de classe. Mais trop de café est néfaste pour la santé des plus jeunes et peut provoquer des nausées ou des troubles du rythme cardiaque, explique le gouvernement qui assure vouloir créer des habitudes saines parmi les enfants et les adolescents. Cette interdiction est cependant critiquée. Beaucoup font remarquer qu'il n'est pas très compliqué pour les enfants de sortir de leur école et d'acheter du café dans les Pyeonijeom, ces supérettes ouverte 24 heures sur 24 et omniprésente en Corée. Et surtout, la mesure dénote une certaine hypocrisie. La pression scolaire intense est un grave problème social. Elle est synonyme d'enfance sacrifiée et parfois de dépression chez les plus jeunes. La Corée possède le pire taux de suicide au monde pour les enfants de 10 à 19 ans. L'interdiction du café s'attaque donc à un symptôme, mais pas à la racine du problème.
L'ouragan Florence a atteint les côtes de la Caroline du Nord aux États-Unis. 10 millions de personnes vivent sur sa trajectoire. Ce matin, 90 000 habitants sont privés d'électricité. Les inondations intenses sont surtout attendues ce week-end. C'est le retour du soleil au nord de la Loire ce vendredi en France métropolitaine. Soleil qui brillera toujours au sud aujourd'hui, avec quelques nuages tout de même au nord-est ce matin. Ils s'estromperont dans l'après-midi. La minimale, elle est à Brest avec 14 degrés, 17 degrés à Paris, Lille, Strasbourg, 21 à La Rochelle, comptez 26 à Marseille.